a besoin d'un lift.
Un message de Mad Canada.
Bordel la rive à Yards and Charles. Boisé sur le slalom et zigzag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Tu veux tout savoir sur les élections municipales? Pour avoir les résultats en direct, des analyses pour mieux comprendre, des entrevues exclusives, tout ça et bien plus, le dimanche 7 novembre à partir de 19h avec Guillaume Bédard et son équipe, écoute la soirée électorale sur les ondes de Chiz 94.3 en collaboration avec CFAC 88.3.
Salut, c'est Geneviève et Ève. Joignez-nous un dimanche sur deux à partir du 26 septembre de 20h à 21h pour notre émission 10 entre nous. On va vous amener faire un petit tour dans notre nostalgie des années 2014 à 2020.
10 entre nous veut dire 10 années qui nous séparent. Ève a 21 ans et moi j'ai 31 ans. On veut vous partager ce qui nous allumait pendant 7 années de notre vie selon l'âge qu'on avait, notre expérience et la musique qu'on écoutait. Manquez pas ça.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'émission 3600 secondes d'histoire. Vous êtes sur les ondes de Chiz 94.3. Ce soir à l'émission, nous recevons l'historien Alain Laberge, professeur titulaire à l'Université Laval et directeur général adjoint du Dictionnaire biographique du Canada. Vous le savez peut-être, le 28 juin dernier, un important historien canadien, Fernand Ouellet, est décédé à l'âge de 94 ans. Ce soir, nous allons explorer ensemble les grands moments de sa carrière. Tout en retraçant sa vie et son œuvre, nous allons souligner les legs que Fernand Ouellet a laissé aux nouvelles générations d'historiens et d'historiennes québécoises. Alors ce soir, vous êtes en compagnie de Émy Bois et de Marc-Antoine Belzile. Bonsoir Marc-Antoine.
Salut Émy, ça va bien?
Ça va super bien. Alors sans plus tarder, je vous présente notre invité de ce soir, Monsieur Alain Laberge, historien spécialiste du Québec-Canada pré-industriel. Dans le cadre de ses recherches, Monsieur Laberge s'est intéressé à l'évolution de la société rurale et notamment au régime seigneurial avant 1850, au rapport population-espace dans la vallée laurentienne, de même qu'à la promotion sociale au sein de la paysannerie, ce qui l'a notamment amené à étudier les concepts de sociabilité et de notabilité. Au cours des dernières années, M. Laberge s'est également penché sur l'étude de la guerre, de la conquête et son époque, sujet qu'il a très intéressant qu'il a su intégrer à son enseignement. Professeur titulaire au département des sciences historiques de l'Université Laval, M. Laberge est aussi depuis l'été 2019 dictionnaire général adjoint du Dictionnaire biographique du Canada. Directeur. C'est donc avec le bagage d'un historien sensible au genre biographique que nous allons explorer ce soir à ses côtés l'œuvre et la vie de Fernand Ouellet, qui, comme on le verra, était un historien à la fois adulé et à la fois honni. Alors, bonsoir, M. Laberge, et bienvenue aux 3600 secondes d'histoire.
Bonsoir.
Donc, commençons avec une question un peu plus légère avant de plonger dans l'œuvre et la vie de Fernand Ouellet. En tant que directeur du Dictionnaire biographique du Canada, pouvez-vous nous aiguiller sur la pertinence que revêt le genre biographique au sein des sciences historiques?
Ah, c'est une question pas si légère que ça, mais on va chercher à y répondre de façon succincte. Il est très clair que la biographie est là depuis les balbutiements là, de l'histoire. Donc l'histoire s'exprimait le plus souvent là, par l'expression là, d'opinion sur les agissements des grands hommes, surtout, évidemment. Donc, pendant très longtemps, cet intérêt ancien s'est développé et ça a été le genre dominant, en fait, pendant de très, très, très nombreux siècles, en passant de l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge et ensuite là, jusqu'au 20e siècle, où le genre biographique s'est retrouvé un peu au banc des accusés par une certaine historiographie beaucoup plus proche des racines populaires, des choses comme ça, qui ont vu dans la biographie quelque chose qui ne s'intéressait qu'aux grands hommes, qu'aux grands événements, qu'aux grandes actions, ce qui n'était pas toujours le cas quand même. Mais bien sûr, ce genre est revenu, donc il y a un renouveau finalement de la biographie depuis probablement le dernier quart du 20e siècle, et ça ne s'est pas tari depuis ce temps-là. Aujourd'hui, on peut bien dire qu'il n'y a personne qui remet en cause la pertinence de la biographie pour pratiquer l'histoire. C'est une façon tout à fait reçue et acceptée là, de travailler l'histoire à toutes les époques.
Et au cours de l'émission, on va survoler la vie et l'œuvre de l'historien Fernand Ouellette. En quelques mots, comment décririez-vous le parcours de cet homme dans le monde de l'histoire publique et universitaire?
Bon, alors c'est un homme assez particulier, mais on peut quand même assez facilement le décrire. On pourrait dire, moi j'ai ramené ça à une couple d'expressions peut-être, là, chercheur infatigable. Ça, c'est très clair, pendant des dizaines d'années. Producteur d'une œuvre marquante et remarquée. Avec, vous avez tantôt le honni et adulé, là. Il se trouve être un peu là. Et aussi, âpre défenseur de ses idées, de ses interprétations. On pourrait dire pratiquement un polémiste. Et il aimait bien se colter, là, verbalement, là, avec ses adversaires, là, au niveau de ses interprétations. Je pourrais vous dire que, en fait, l'émission d'aujourd'hui est dans une série là, de In Memoriam depuis quelques mois, là, depuis le décès de Fernand Ouellette. Au dernier congrès de l'IHEF, il y a eu une table ronde à sa mémoire. L'ARHEF a publié dans son dernier numéro un texte qui était paru dans Le Devoir précédemment, où on décrit Fernand Ouellette comme un historien à la cognée. Hein? Je pense que c'est un texte de Martin Paquette là, et Yves Frenette. Qui l'ont bien connu. Je voudrais absolument insister ici pour mentionner que l'examen le plus approfondi de l'œuvre de Ouellette, c'est la thèse de François-Olivier Doré, soutenue à l'Université de Montréal en 2018, qui sera incessamment publiée, on l'espère certainement. François-Olivier, qui est maintenant professeur à l'UQAC, et c'est vraiment une étude extrêmement fine de tout ça. Donc, mon propos d'aujourd'hui vient beaucoup de ce que François-Olivier Doré a pu dire, et aussi de toute l'évolution de l'historiographie, mais aussi mon expérience personnelle, puisque Fernand Ouellette a été sur mon jury de thèse là, au siècle dernier à l'Université York en 1987. Ça ne me rajeunit pas, mais mon souvenir est encore très vif.
Donc, vous l'avez côtoyé un petit peu, le Fernand Ouellette, dans vos études?
Oui, exactement, un petit peu. Il est arrivé à York quand, moi, en fait, j'étais plus à York, j'étais à Québec pour faire mes recherches, mais évidemment, quand est venu le temps de la soutenance, je suis allé à York la soutenir, et là, je l'ai vraiment rencontré, tout ça. Et après l'avoir vu, évidemment, là, pendant lors des colloques, des congrès, tout ça, où il était très, très présent.
Alors, super. Maintenant, c'est le temps de passer à notre première pause musicale. Ce soir, j'ai choisi des chansons qui se rapportent à différents moments de la vie de Ouellette. Puisqu'il est né en 1926, il est probable qu'il ait entendu, quand il était enfant, des chansons d'Hector Pellerin, qui fut un chanteur, pianiste et acteur très populaire dans les années 1920-1930. Alors, écoutons un extrait de la chanson « Chanson du prisonnier » sortie en 1926 et interprétée, bien sûr, par Hector Pellerin. Bonne écoute!
Il est un gars, j'ai assez hâte au jour de l'an, là.
Hey, je pensais pas qu'un canot pouvait voler.
N'oubliez pas qu'il faut pas sacrer, là.
Quand je pogne plus 3600 secondes d'histoire. Oh non!
Vous êtes de retour sur les ondes de Chiz 94.3 à l'émission 3600 secondes d'histoire pour une émission portant sur la vie et l'œuvre de l'historien Fernand Ouellet en compagnie de M. Alain Laberge, historien et directeur général adjoint du Dictionnaire biographique du Canada. Alors, commençons finalement là, à entrer un peu plus dans la vie de Fernand Ouellet. Donc, d'où vient-il cet historien et quel genre de formation a-t-il reçu?
Eh bien, Fernand Ouellet est né en 1926 à Lac-Bouchette, une toute petite paroisse rurale là, ou agroforestière là, du lac Saint-Jean, au sud du lac Saint-Jean. Et il a suivi le cours classique. Là. Il a gradué du séminaire de Chicoutimi en 1948 et après ça, il est venu faire des études à l'Université Laval. Donc, c'est des origines quand même modestes. Hein. Son père était bûcheron, puis l'été, là, il était un peu guide pour la pêche et la chasse. Et lui-même, Fernand Ouellet, travaillait l'été au moulin à scie local. Et c'est là qu'il en a profité pour ramasser un peu d'argent pour payer ses études supérieures. Autrement, ça n'aurait pas été possible. Donc ça, c'est en gros, c'est son pédigrie de sa première phase de vie, sur laquelle, il faut bien dire, on a très, très peu, quelques bribes d'informations qu'il a données lors d'entrevues, mais on n'a pas un gros bagage là-dessus.
C'est en 1966, au moment de la publication de sa thèse de doctorat intitulée « Histoire économique et sociale du Québec 1760-1850 » que Fernand Ouellet provoque des réactions. Donc, à ce moment-là, qu'il fait son entrée dans le monde universitaire. On dit même que le milieu des historiens québécois nationalistes monte aux barricades. Comment peut-on expliquer cette réaction vive? Quelles étaient les thèses soutenues par M. Ouellet?
Oui, évidemment, vous avez vu le volume, là, c'est une brique. Hein, c'était sa thèse de doctorat qui a été publiée en 1966 chez Fides. Évidemment, on savait déjà un peu de quel bois il se chauffait parce qu'il l'avait déjà publié dans les années 50. Mais évidemment, là, voilà, c'était une œuvre là, très achevée, un gros bouquin, etc., avec plein de tout l'appareil scientifique. Donc, on savait un peu à quelle enseigne il logeait, mais il récidive et signe, si on veut, avec donc un titre très vaste, « Histoire économique et sociale du Québec, 1760-1850 », c'est le thèse qu'on donne normalement, une synthèse. Hein? Mais alors lui, alors que non, c'est une thèse de doctorat où finalement, il expose là les résultats de plusieurs chantiers de recherche dans les archives et il en arrive à mettre en place vraiment presque un siècle, là, ce qu'on pourrait appeler le Québec entre la conquête et l'industrialisation, une interprétation extrêmement soutenue et qui va justement entraîner des réactions parce que finalement, l'interprétation de Ouellet, c'est finalement tout sauf celle qui inspirait l'école de Montréal, dont on reparlera tantôt. Une interprétation donc néo-nationaliste qui repose sur la reconnaissance que la conquête de 1760 a eu des effets funestes et extrêmement négatifs sur le développement du Québec de cette époque-là, des effets qui vont durer finalement jusqu'au 20e siècle, jusqu'à la Révolution tranquille. Donc, Ouellet, lui, dérogeait complètement là, de cette interprétation. Hein, et il disait qu'en termes de structure, finalement, parce que le sous-titre de son livre, c'est « Structure et conjoncture », hein, un peu à la mode des annales, dont on reparlera aussi tantôt. Donc, en termes de structure, finalement, la conquête n'a pas entraîné de grands changements au niveau économique, la culture, les fourrures, il n'y a rien qui avait vraiment changé. Et selon lui, hein, ce qui s'est passé dans ces années là, qui suivent la conquête, selon lui, c'est la mentalité d'ancien régime des Canadiens qui fait en sorte que ce sont les Britanniques, avec leur mentalité moderne et capitaliste, progressiste qui fait en sorte que ils vont prendre en main l'économie du Québec jusqu'à justement la même époque là après la Deuxième Guerre mondiale. Donc et ça c'était à l'origine selon lui de l'infériorité économique des Canadiens français. L'École de Montréal disait c'est à cause de la conquête, ou Ouellette disait non, ça n'a rien à voir, c'est en dedans de la mentalité canadienne comme telle que l'on retrouvait les ferments de cette infériorité.
Et Ouellet, donc, en 1966, en pleine Révolution tranquille, il est inspiré donc par les idées qui courent, dans le fond, là, qui chamboulent, en fait, le milieu universitaire dans ces années-là, donc 1960-1970. Donc, quand même, un produit de son époque, Ouellet, en pleine Révolution tranquille, âgé quand même aussi de 40 ans, ce qui est quand même intéressant parce que publier sa thèse de doctorat à 40 ans, on acquiert une certaine maturité intellectuelle, donc je trouvais important de noter cet élément-là. Donc, vous avez parlé de l'École de Québec, l'École de Montréal. Au fond, qu'est-ce que c'est ça, l'École de Québec, l'École de Montréal?
Ah là là, quel beau sujet. En fait, c'est un sujet sur lequel on a beaucoup parlé sans trop savoir de quoi on parlait, notamment pour ce qui est de l'École de Québec. C'est pour ça que la thèse de mon collègue Doré est si importante, parce qu'il finalement, il réussit à clarifier les choses. L'École de Montréal, finalement, il faut commencer par elle. Hein. C'est vraiment une école de pensée autour d'un modèle interprétatif unifié, cohérent, avec à sa tête une espèce de théoricien formulateur de ça, qui était Maurice Séguin, suivi de Brunet et de Guy Frégaux. Et ça existait à Montréal, là. Ça s'est pas appelé de même comme ça, c'est venu naturellement que, vu que c'était à l'Université de Montréal, ça va être l'École de Montréal. On appelle ça comme ça, et ça représente vraiment une école de pensée. Et on a opposé l'École de Montréal, une école de Québec, qui aurait été son opposant. Mais en fin de compte, les choses sont pas si simples que ça. Certes, il y a une opposition sur le plan des interprétations, évidemment, de la conquête notamment, mais c'est ça, c'est dans la nature même de cette école qu'il y a divergence et une différence. L'École de Montréal, donc, école de pensée, on retrouve pas ça pour l'École de Québec, qui n'apparaît pas comme une école de pensée, parce que justement, elle n'a pas un modèle interprétatif unifié, elle n'a pas un Maurice Séguin qui formule les choses dans un cadre théorique. Chacun des membres de l'École de Québec, Marcel Trudel au premier chef, ensuite Fernand Ouellet et Jean Hamelin, ont une œuvre beaucoup plus éclatée, beaucoup moins unifiée, mais qui répond davantage à une autre définition du terme école, non pas école de pensée, mais école d'activité. Donc, qui fait en sorte que ces collègues-là, à l'époque où ils étaient à l'Université Laval en même temps, hein, partageaient une conception semblable des pratiques et de la méthode historienne. C'est ce qui fait qu'ils ont une certaine unité, mais cette unité qui repose sur d'autres choses que la pensée de l'École de Montréal. Donc, c'est pour ça que c'est deux écoles qui n'ont pas la même nature. Donc, c'est difficile de les comparer systématiquement. Donc, et ça, c'est vraiment François-Olivier Doré qui fait très, très, très bien cette distinction, cette nuance qui m'apparaît absolument importante.
Et comme on l'a dit plus tôt, en plus de soutenir des thèses originales pour l'époque, Ouellet utilise aussi des méthodes de recherche qui changent la façon d'étudier et d'écrire l'histoire du Québec, introduisant notamment l'École des annales, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, à l'historiographie québécoise. Qu'est-ce que l'École des annales en fait?
Ah, l'École des annales, ça aussi, c'est une autre affaire. Il y en existe non plus que c'est pas une école, mais bon, dans ce cas-ci, disons que le terme école peut être accepté quand même d'emblée. En fait, l'École des annales, ce sera un courant historique venu de France, évidemment, qui fleurit en France dans les années 1920, un peu en contradiction de l'école positiviste là, qui existait auparavant, puis à la revue historique, tout ça. C'est sous la gouverne de Marc Bloch et de Lucien Febvre, qui vont fonder une revue extrêmement importante qui s'appelait en 1929 les Annales d'histoire économique et sociale. Le nom va changer souvent, mais Annales est toujours dedans, là. C'est ce qui fait qu'on parle de l'École des Annales. Cette revue-là va être extrêmement importante parce que elle était l'expression du credo de ces historiens-là et de ceux qui vont suivre. Ça va devenir un véritable engouement, un mouvement d'histoire très, très important. important, visant l'histoire totale, une histoire complète, une histoire beaucoup plus axée sur les couches populaires de la société, où justement on prônait de ne pas faire comme l'histoire traditionnelle axée seulement sur les grands événements, les grands hommes, les généraux, les politiciens, l'histoire politique, l'histoire militaire. Donc, une histoire qui va finalement aller chercher hein, les structures et les conjonctures. Vous voyez, là, c'est pour ça que le sous-titre du livre de Ouellette en 66 retrouve ça. Et ces structures et ces conjonctures nous amènent en pleine histoire économique et sociale qui vont devenir les fers de lance de l'École des Annales avec un pendant d'histoire quantitative là, qui va se développer dans les années 50, 60 et plus tard. Et ça, Ouellette avale ça complètement. Il est tout à fait dédié à suivre ce programme de l'École des Annales, qui a une renommée internationale après la Deuxième Guerre mondiale, mais avant aussi, mais après la Deuxième Guerre mondiale, ça devient... Il n'y a plus aucun obstacle et ça va atteindre le Québec. Dans les années 50, il y a des Québécois qui vont aller étudier en France, Jean Hamelin. Ouellette lui-même va aller faire des stages avec les archives, il va aller prendre des cours à la Sorbonne, il va rencontrer Labrousse et tout ça. Des gens des Annales vont venir au Québec à différents moments, et notamment lors d'un colloque très, très important d'histoire comparée France-Québec en 1963, où Ouellette, bien sûr, et Hamelin vont être, mais avec des grands noms d'histoire de l'École des Annales, Labrousse, Robert Mondroux, Georges Duby et d'autres. Là, je ne les nomme pas tous. Donc, les liens avaient été tissés. C'est un colloque qui s'était tenu à l'Université Laval, à Québec. Donc, le lien était fait. Il y a des professeurs français rattachés aux Annales qui vont venir ici. Et donc, vraiment, c'était une très, très grande symbiose. Les Annales, on va avoir une empreinte profonde au Québec, pas seulement à Laval, mais on dirait que vraiment... À l'Université Laval, il y a eu une espèce de d'osmose qui s'est opérée extrêmement rapidement et de façon durable. D'ailleurs, Robert Mondroux signe la préface du livre de Ouellette de 1966. Et ils ont une correspondance très, très suivie, là.
Et outre le titre de sa thèse de doctorat, Structure, conjoncture, comment vraiment Ouellette a-t-il intégré cette façon nouvelle d'écrire et d'étudier l'histoire, notamment par le biais de sources nouvelles, parce que l'École des Annales, un peu, c'est ça, c'est d'aller vers des sources qui n'étaient pas utilisées auparavant, des sources économiques notamment. Donc, qu'est-ce qui amène de nouveau finalement la Ouellette?
Ben, c'est que justement, voulant faire de l'histoire économique et sociale, ben, il va se tourner vers des documents qui avaient été plus ou moins exploités dans l'historiographie traditionnelle, notamment les prix agricoles. Hein. Lui et Jean Hamelin, là, les deux, vont travailler à partir des séries de prix du blé venant des archives du séminaire notamment. Ils vont construire des courbes des prix du blé, comme Ernest Labrousse faisait avec les prix du blé au 18e siècle. Et lui, il servait de ça pour expliquer les mouvements sociaux et notamment la Révolution française. Donc, Ouellette a fait un peu ça de cette manière-là, avec toutes sortes d'autres documents aussi pour l'histoire rurale, des papiers terriers, des choses comme ça. Amy va être sans doute très intéressée à ça. Donc, toutes sortes de sources, les notaires, tout ça. Et surtout, c'est qu'il va... Il va délaisser les grands, grands, grands acteurs pour se pencher là, vers la paysannerie, vers les ouvriers. Donc ça, c'est là-dessus, c'est très, 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 très intéressant de voir ça. Et donc, ça fait que dans son livre de 66, il y a une liste de tableaux et de figures. En 1966, c'était assez rare dans le monde de l'édition au Québec où on avait une table des figures. Il y en a de très, très, très nombreuses, là.
Alors, passons maintenant à une petite pause publicitaire, mais avant, écoutons une chanson qui date des années 60, hein, moment où Ouellette va publier sa thèse de doctorat, donc en 1966. Et la même année, en 1966, le plus gros succès musical du Québec est La poupée qui fait non, adaptée dans une version québécoise par les Sultans, mais originellement une chanson de Michel Polnareff, un auteur-compositeur-interprète français. Vous allez voir, vous la connaissez, c'est sûr, un véritable verre d'oreille. Bonne écoute!
Thank you. Pour le meilleur de la musique de la ville de Québec, c'est Chiz 94.3 qu'il faut que t'écoutes.
Écoute locale. Écoute Chiz 94.3.
Tu veux tout savoir sur les élections municipales? Pour avoir les résultats en direct, des analyses pour mieux comprendre, des entrevues exclusives, tout ça et bien plus, le dimanche 7 novembre à partir de 19h avec Guillaume Bédard et son équipe, écoute la soirée électorale sur les ondes de Chiz 94.3 en collaboration avec CFAQ 88.3.
Envie d'en apprendre plus sur l'encadrement et sur différents enjeux des cycles supérieurs de l'Université Laval? Tu meurs d'envie de connaître ce qui se passe à l'Allier et dans les associations universitaires des cycles supérieurs? Ça tombe bien, l'Allier et Chiz 94.3 ont une émission juste pour toi. Les mardis de 11h30 à midi, écoute Question de savoir pour en apprendre un peu plus sur les enjeux des cycles supérieurs. Disponible aussi sur le chiz.ca et en balado-diffusion.
Avide de découverte? Tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Ici Louis-Edmond Hamelin, professeur émérite de géographie à l'Université Laval. Vous écoutez Chiz 94,3 FM.
Vous êtes de retour à Chiz 94.3, à l'émission 3600 secondes d'histoire, pour une émission portant sur la vie et l'œuvre de Fernand Ouellet, historien important de l'histoire canadienne, en compagnie de M. Alain Laberge, historien et directeur adjoint du Dictionnaire biographique du Canada. Alors, poursuivons maintenant notre survol de la vie de Ouellet et parlons un peu plus de son importance pour la discipline historique. Donc, on a parlé tout à l'heure, en fait, de l'École de Québec. Mais concrètement, on disait que, bon, Ouellet, avec ses thèses, fait monter le milieu universitaire aux barricades. Concrètement, comment être la figure de proue de l'École de Québec? Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur sa carrière?
Ben, évidemment, on dit que c'est la figure de proue de l'École de Québec parce que, simplement, en 1966, quand paraît l'histoire économique et sociale, les deux autres collègues de Laval, Trudel, par exemple, étaient déjà pour la Nouvelle-France, en train de rédiger là, ses volumes de son histoire de la Nouvelle-France. Il était rendu, il avait remonté au 17e siècle. Donc, il n'était plus vraiment, lui-même à être le diffuseur de l'opposition à la thèse des effets de la conquête, comme on était, évidemment. Trudel partageait sensiblement les mêmes choses jusqu'à un certain point, mais il n'était plus vraiment là. Et Hamelin, lui, après son petit livre « Économie et société en Nouvelle-France » de 1960, fruit de ses recherches en France auprès des annales, va changer de sujet. Il va laisser les années 1760 à 1850 à Hamelin et il va s'en aller, lui, du côté de l'après-1850, ce qui va donner lieu à son histoire économique du Québec avec Yves Roby, qui va paraître quelques années après, mais qui commence en 1850. Donc, Hamelin avait un peu déserté la Nouvelle-France. Donc, il ne restait plus que Ouellet, finalement, pour vraiment affronter. Son livre, évidemment, j'ai parlé beaucoup des effets de la conquête, mais son livre fait aussi autre chose, c'est qu'il crée une ligne de temps qui culmine notamment, bien sûr, avec les rébellions de 37-38, et Ouellet a une interprétation très, très particulière des rébellions de 37-38, très, très différente de celle qui courait auparavant, et il reliait ça à l'existence d'une crise agricole qui aurait commencé dès 1802 au Bas-Canada, justement, encore une fois, en lien avec la mentalité un peu traditionnaliste et routinière de l'habitant qui n'avait pas su soigner ses terres comme il faut. Évidemment. Et donc, quand on dit que ça va monter aux barricades, c'est que autant par rapport à ses commentaires sur les effets de la conquête que sur le reste de la période, ben, il y a plein de gens qui vont dire « Ben non, Fernand Ouellet a tort, c'est pas comme ça que ça s'est passé. » Donc, la montée aux barricades, ça va se traduire pas nécessairement par des comptes rendus incendiaires, parce que finalement, les gens étaient bien forcés de reconnaître qu'il y avait derrière ça une grande recherche, mais surtout par des initiatives de recherche. Je prends par exemple Jean-Pierre Hoileau et Gilles Paquette, qui vont se mettre, après la parution de ce livre-là, à justement prendre au mot où elle était, à montrer qu'il n'y avait pas eu de crise agricole. Donc, c'est très, très important. Et de la même manière, par rapport aux rébellions de 37-38, bien, les thèses de Ouellette vont amener plein d'historiens, des sociologues, tout ça, à revoir et à reformuler une interprétation qui n'était pas strictement, après la conquête, tout s'est mal passé pour le Québec. Donc, des gens comme Gilles Bourque, plus marxisant un peu, vont chercher à justement là, contester Ouellette là, et à chercher à nuancer son interprétation. Donc, et ça va durer longtemps, tout ça. Là. Ouellette, dans sa querelle avec Paquette et Hoileau, ça va durer. Ça va durer jusqu'à la fin des années 80. Donc, c'est très, très, très important de voir ça. Et Ouellette, évidemment, ne lâchait jamais le morceau. Il était convaincu qu'il avait raison. Il va jamais se dédire. Il va toujours aller prendre au mot ses détracteurs et leur dire « Ah, vous vouliez me montrer ça, mais regardez, vous êtes trompé, vous aussi, de telle manière. » C'était un... Tantôt, je disais, c'était un polémiste. Il aimait beaucoup là, débattre de cette manière-là. Et c'était pas... Ça lui faisait plaisir, finalement, ce genre d'affrontement. Là, c'était... Ça répondait bien à son tempérament.
Dans un article publié lors de un peu suite à son décès, je pense que c'est dans La Presse ou je pense pas que c'est dans Le Devoir, mais en tout cas dans un journal assez populaire, il y avait quelqu'un justement qui disait que Ouellette montait un dossier de presse suite à une discussion parce qu'il voulait démontrer justement que l'autre interlocuteur avait tort, mais avec un dossier de presse qui est quand même assez intéressant puis qui démontre un peu son tempérament en tant que chercheur, d'aimer le débat, d'aimer un peu la polémique, je pense, pour travailler sur ces questions-là. Faut aimer ça, être un sujet de discussion à travers le monde universitaire.
Moi, je l'ai vu, écoutez, je l'ai vu à l'œuvre dans des colloques, tout ça, et quand il avait la main pour poser une question, là, je vous dis que les conférenciers en avant là, étaient sur leur garde, et j'ai assisté à des échanges là, vraiment comment dire, très lourd là, de ce point de vue-là. Je peux même vous donner une autre petite anecdote. Quand j'étais en première année au bac à l'Université Laval en 1977, ça ne rajeunit pas non plus. Je suivais le grand cours d'introduction à l'histoire du Canada. C'était Yves Zolvani qui en était le titulaire et ça, on y allait par conférenciers invités. C'était souvent des collègues, Jacques Mathieu, Richard Jones, peu importe. Là. Bon, Jean Hamelin, d'ailleurs, qui venait toujours faire le dernier sur l'évolution tranquille. Mais là, pour les événements de 1738, Yves Zolvani invite Fernand Ouellette. Alors, c'était quand même pas rien, hein? C'est son livre, Le Bas-Canada, changements structuraux et crise, vous braquez encore, changements structuraux, venait de paraître. Et là, Zolvani... donc, Ouellette nous faisait la conférence, basée évidemment sur son livre, et puis bon, on était quand même assez impressionnés par cet intellectuel-là. Et à un moment donné, Yves Zolvani a posé une question. Il a dit, ça m'aide, monsieur Ouellette, pensez-vous pas plutôt que, il le prenait un peu en défaut. Ouellette l'a remis à sa place, je vous le dis. Ça, Yves Zolvani, qui était un excellent professeur, là, s'est tenu quoi pendant le reste de la séance? C'est sur Papineau, la question.
Oui, oh. Exactement. En parlant de Papineau, justement, on parlait tantôt des rébellions 37-38, on parlait de son côté polémiste. À une certaine époque, Ouellette publie un ouvrage sur Julie Bruno Papineau, la femme de Louis-Joseph Papineau, et il est retiré du marché. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet épisode? Comment il s'est traduit? Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est un épisode assez, assez particulier dans la carrière de Ouellette et qui n'est pas monnaie courante dans la carrière de chercheur, pas juste historien, là, donc une espèce de censure sur la publication d'une œuvre. Mais c'est quand même très très intéressant cet épisode-là. D'abord, il faut bien montrer que c'est un livre qui démontre l'intérêt de Ouellette pour la psychologie sociale. Dans l'école des annales, hein, il y avait une influence et des intentions de recherche de ce côté-là. Lucien Febvre ne s'en cachait pas, il avait publié des choses liées à la psychologie des gens à leur époque, à leur mentalité, et de là l'apparition de l'histoire des mentalités dans les années 50-60, dont Robert Mandoux va être le principal diffuseur. Et donc, cette idée de psychologie sociale, Ouellette partage ça. D'ailleurs, toutes ces références à la mentalité de l'habitant, c'est lié à ça complètement. Et il s'intéresse donc beaucoup aux rébellions, évidemment. Il s'intéresse à Papineau. Papineau, il va écrire de Papineau hein, dans une petite brochure de la Société du Canada. Papineau, un être divisé. C'est une analyse finement psychologique de Papineau qui explique justement pourquoi la rébellion n'a pas marché. Ça serait à cause de tel travers ou biais psychologique. Et, évidemment, il a consulté les fonds d'archives qui concernaient Papineau. Et, évidemment, la femme de Papineau, son épouse, Julie Bruneau, est apparue dans le décor. Et il a décidé de travailler sur elle, de faire ce livre sur Julie Bruneau, Julie Papineau. Le livre s'appelle « Un cas de mélancolie et d'éducation janséniste ». Et donc, c'est, encore une fois, c'est une analyse psychologique qui montre l'éducation de la famille de Papineau par les femmes, enfin, et tous les travaux que ça a pu avoir. Et le livre n'a pas été censuré par la communauté scientifique. Non, ce sont les descendants de la famille Papineau qui vont intenter une poursuite et demander que le livre ne soit pas publié ni distribué. Ça va être une saga judiciaire. Ultimement, Ouellette, il va perdre. La Cour suprême va reconnaître que, finalement, là, la diffamation que l'on évoquait pouvait être vue comme recevable. Donc, ils vont condamner Ouellette à payer 400 $ d'amende. Bon, c'est pas d'amende, mais à la famille. Donc, c'est quand même pas grand-chose, mais sauf que ça va l'avoir énormément... Ça va l'avoir occupé, évidemment. Ça va, bien sûr, lui montrer que c'était une pente dangereuse de la psychologie sociale. Et dans ses œuvres qui vont suivre, justement, son Bas-Canada, son analyse des rébellions, c'est beaucoup moins basé sur la psychologie des acteurs, en tout cas pas celle de Papineau, que sur des phénomènes globaux, justement relevant des structures économiques et sociales. Donc ça va finalement... C'était un livre de 1961, donc il a évolué et il s'est un peu détaché là, de cette psychologie sociale qui était beaucoup plus centrale dans les années 50.
Mais c'est assez audacieux là, d'écrire un ouvrage sur une espèce de psychologie sociale à travers la correspondance. Quelle sorte de correspondance, d'ailleurs, savez-vous un peu?
Je n'ai pas travaillé sur ces personnages-là. Mais effectivement, c'est un cas de mélancolie. Là, on voit bien, là, on imagine un peu là, l'épouse bourgeoise qui est un petit peu, à rien faire avec les domestiques, tout ça, parce que Papineau, quand même, menait un grand rythme de vie, qui se laisse aller là, dans sa correspondance là, à l'expression de sentiments puis d'état d'âme. Donc c'est un peu ça qu'on retrouve là-dedans. Et elle dit ça à son époux là, parce qu'évidemment il était pas toujours à Montebello. Voilà, donc c'est un peu ça là, et ça va. C'est un moment difficile pour la profession historienne. Ça a été jugé comme... C'est un jalon, là, parce que les éditeurs, depuis ce temps-là, sont très, très frileux là, à l'édition de livres qui pourraient porter justement là, atteinte et justement être jugé comme diffamatoire. Ouais.
Et puis de toute façon, l'histoire, la petite histoire n'est pas nécessairement ce qui intéressait Ouellette. À ce que j'ai compris, il s'intéressait, comme on l'a dit souvent, aux structures, aux conjonctures, aux phénomènes, un peu moins à la petite histoire. Mais concrètement, là, est-ce qu'à cette époque-là, lorsque le livre paraît, il est, j'imagine, engagé à l'Université Laval comme professeur, mais est-ce que c'est à ce moment-là qu'il va quitter l'Université Laval parce qu'il est engagé engager plus tard. Quel impact cette censure a sur sa carrière?
Ça ne va pas se présenter comme une question de positionnement professionnel. C'est vraiment par rapport à sa recherche qui va justement modérer le propos psychologique, là, parce qu'il avait été, bien sûr, échaudé là, par ce procès-là. S'il parle de l'Université Laval, c'est pour toute autre raison que ça. C'est notamment son tempérament de fonceur et d'opposant à toute l'historiographie traditionnelle en général, mais une historiographie traditionnelle qui comportait, bien sûr, beaucoup de membres du clergé. Et à l'Université Laval, dans ce temps-là, le recteur, c'était un prêtre du séminaire. Hein? Donc c'est un peu ça là, qui a fait en sorte qu'il sera parti là, vers d'autres cieux. Là.
Évidemment, on parle des patriotes, on parle des scandales qui l'entourent. On peut pas passer à côté de parler du nationalisme. Comment M. Ouellet avait ses rapports avec le nationalisme québécois?
Ah, c'était... c'est une relation extrêmement conflictuelle. On comprend bien que si on dit que l'École de Montréal est l'expression du néo-nationalisme là, qui remplace le nationalisme traditionnel canadien-français là, à la fin des années 40 et pendant toutes les années de 50 et 60 et même au-delà, ben Ouellet, s'opposant, comme on a vu, bec et ongle aux thèses de l'École de Montréal... est vu comme rien en lui n'est nationaliste. Au contraire, justement, quand je parlais tantôt de son aversion de l'historiographie traditionnelle, c'était justement parce qu'elle reposait sur des thèses où le nationalisme était extrêmement étriqué, mais utilisait toutes les sauces de façon absolument mal documentée, mal comprise et de façon, en fin de compte, de façon à jeter de la poudre aux yeux, finalement. Là, au lecteur. Donc, Ouellet n'est certainement pas nationaliste. Et pour lui, le nationalisme, c'est une déformation. Pour l'historien, c'est un grave danger parce que le nationalisme pourrait déformer la vision des événements et leur interprétation, ce que, pour lui, ses collègues de l'École de Montréal faisaient. Ils avaient leur thèse nationaliste et ça infléchissait leur recherche et toute l'interprétation. Et lui, il ne voulait pas manger de ce pain-là. Il était donc très, très, très anti-nationaliste. D'ailleurs, il est très admiratif de Pierre-Éliott Trudeau, qui, on peut bien le dire, n'est pas très, très nationaliste. Je pense que c'est très clair. Donc, rapidement, Ouellet a été associé au camp fédéraliste, avec la montée du séparatisme, évidemment, dans les années 60-70. Ça a été très clair. Il ne s'en est jamais caché, ni cette étiquette-là, ni son admiration pour Pierre-Éliott Trudeau.
Quand même surprenant, je trouve, en fait... Le rapport un peu conflictuel au nationalisme, c'est super intéressant, surtout dans une époque où, justement, c'est en pleine montée dans les années 70, 80, 90, les référendums. Donc, c'est une époque explosive avec la suite un peu de la Révolution tranquille. Super intéressant. Donc, dans quelles années, parce qu'on sait, je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai mentionné, que Ouellet va quitter l'Université Laval, va aller enseigner dans d'autres universités, notamment ontariennes. Il est fortement critiqué pour ses thèses. Il va délaisser peu à peu l'étude de l'histoire sociale et économique du Québec. Donc, en quelle année quitte-t-il l'Université Laval pour d'autres universités en Ontario et sur quoi portent ses recherches à la fin de sa carrière?
Son départ de l'Université Laval, c'est dans le milieu des années 60. Là, en fait, il n'avait jamais eu de poste à l'Université Laval.
Okay.
Il était rattaché à la faculté de commerce au début des années 60. Son statut n'était vraiment pas très clair. Comparativement à Trudel, qui était, bien sûr, un professeur en bonne et due forme, et Hamelin, qui va le devenir très rapidement. Ouellet, justement, à cause de ses positions par rapport au clergé traditionnel, va un peu subir le contre-coup de ça, et il va décider d'aller vers la région d'Ottawa où là, on l'a invité à venir et on voulait qu'il vienne. Il faut bien comprendre que les thèses de Ouellet allaient beaucoup dans le sens de l'école laurentienne, hein, la suite de Donald Creighton, tout tout ça. Donc, et l'interprétation de Ouellet cadrait parfaitement bien avec cette école de pensée-là. Et donc, Ouellet était bien accueilli, était vraiment reçu très, très, très bien. À Carleton d'abord, mais tout de suite après, à l'Université d'Ottawa, où il va rester, presque entre 15 et 20 ans facilement, où il va d'ailleurs fonder, et ça, c'est un geste extrêmement important, et ça en dit très long sur justement son dévouement et le fait d'être dédié à l'histoire sociale. C'est la fondation de la revue Histoire sociale, mm-hmm. Social History, en 1968, ouais. Revue qui continue toujours de paraître et qui, évidemment, parle d'histoire sociale de façon internationale, tout ça. Et donc, c'est une chose à laquelle, une entreprise à laquelle Ouellet a participé, donc, dès le début. Et ensuite, il va aller à l'Université York au milieu des années 80, là, juste à temps pour être de ma soutenance de thèse. Mais à l'époque, il continuait, jusqu'à cette époque-là, il continuait encore à faire des recherches en histoire économique et sociale. Mais après ça, à partir de 85, là, à Toronto, il était un petit peu plus coupé. Évidemment, physiquement, il était plus loin du Québec. Donc, il va davantage se lancer dans des recherches à caractère historiographique. Lui-même ayant fait l'objet de nombreux textes d'analyse historiographique par plusieurs historiens anglophones comme francophones. On pense à Serge Gagnon, par exemple, qui a beaucoup cherché à comprendre l'œuvre de Ouellet. Ben, lui, il va faire pareil, mais évidemment avec les lunettes de Ouellet. Et donc, un peu en devancier de ce que Ronald Rudin va faire là, dans les années qui vont suivre avec son livre « Faire l'histoire au Québec », il va un peu montrer, là, notamment un article de 85 sur la modernisation de l'historiographie au Québec. Il va bien montrer, bon, il connaît tout ça, bon, la montée de l'histoire des femmes, la montée de l'histoire ouvrière, etc., etc. Ouellet, bon, bien sûr, va critiquer ces entreprises, ces chantiers de recherche-là, pas toujours pour leur lancer le boulet, mais toujours pour leur... Il allait toujours chercher la petite affaire qui disait, regardez, là, on fait fausse route. Ce que l'on cherche à faire, c'est de montrer que le Québec, notamment au 20e et au 19e siècle, était une société normale. Et donc, avec le mot « normal », on voit bien la flèche décochée à l'ancienne école de Montréal où, finalement, la conquête avait bloqué le développement normal de la société de la Nouvelle-France. Donc, il va faire ça comme ça. Donc, et Rudin va un peu travailler dans ce sens-là aussi, en disant notamment que l'historiographie récente du Québec, récente, enfin, des dernières 20 années du 20e siècle, était un petit peu, là, oubliait, hein, ou négligeait certains aspects de la société québécoise, du canadienne française, ensuite québécoise, notamment la religion. Donc, ça a entraîné, les positions de Rudin ont entraîné énormément de débats et de pas extrêmement, d'ailleurs, extrêmement riche. Et ça, ben, je dirais que c'est un peu Ouellet qui était un peu l'instigateur de tout ça. Je suis sûr que Ronald Rudin ne dirait pas le contraire. Il a aussi travaillé à la fin de sa vie sur l'Ontario français. S'intéressait à la communauté franco-ontarienne. Encore une fois, en retournant aux sources, où est-ce qu'ils étaient dans les recensements de l'époque, tout ça. Et lui, ça l'intéressait parce que, de la même manière qu'il avait voulu étudier le passage d'une société rurale pré-industrielle à une société où l'industrialisation commence à apparaître, et ce, dès les années 1830-40, ben, il essaie un peu de voir la même chose pour l'Ontario français, évidemment, pour des années plus tard, mais pour voir jusqu'à quel point, là, comment on est passé du rural à l'industriel dans cette société-là. Et selon lui, c'est pas du tout après 45 que ça se passe. Déjà avant, il y avait des signes de ça. Donc, c'était un peu les mêmes questions qui l'animaient, là. Comment ces sociétés-là reçoivent-elles la modernité, puis comment s'adaptent-elles? Et bon, là, je peux pas dire qu'il serait pas allé jusqu'à dire que les Franco-Ontariens avaient les mêmes travers que les paysans de la Nouvelle-France. C'est sûr que non. Mais c'était même, il était animé des mêmes désirs par rapport à la recherche et à l'interprétation.
On entame les derniers moments de l'émission, mais juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur un point. On a parlé tantôt de l'implication de Ouellet sur la place publique comme historien. Quelle était justement sa place? Est-ce que, en tant que polémiste, il faisait les manchettes ou il était plutôt dans sa tour d'ivoire universitaire?
Oui, bien, en termes d'histoire publique, on ne peut pas dire que Fernand Ouellet a été un historien dans le public. Ses grandes thèses étaient bien sûr débattues essentiellement dans le monde universitaire, dans le monde intellectuel. Cependant, à cause justement du clivage existant entre les positions indépendantistes qui étaient extrêmement liées à l'École de Montréal et, encore une fois, à une certaine interprétation de la Nouvelle-France et de ce qui se passe ensuite, donc un camp nationaliste, hein, et Ouellet opposé à tout ça, donc camp fédéraliste. Donc c'est un peu indirectement qu'il a finalement contribué à des débats dans l'histoire publique. Mais lui-même, personnellement, n'a jamais été quelqu'un qui écrivait des pages, des lettres ouvertes dans le Devoir ou dans le Ottawa Citizen ou quoi que ce soit, ou écrivait dans des revues d'opinion. Non. Il a toujours été quelqu'un qui publiait des articles savants dans des revues savantes et des livres savants dans des maisons d'édition savantes. Mais c'est ça, c'est un peu indirectement qu'il a finalement, fécondé là, hein, des débats là, dans le public dans ces années-là, surtout les années 70 et 80 d'ailleurs. Oui.
Alors, nous sommes aux dernières minutes de l'émission, mais avant de se laisser, M. Laberge, j'aimerais que vous nous parliez un peu des legs que Fernand Ouellet a laissés donc aux générations futures d'historiens et d'historiennes dont vous avez fait partie.
Oui, effectivement. Il faut lui reconnaître. On a beau être d'accord avec lui ou ne pas être d'accord avec lui, les opposants, ceux qui le honnissent comme ceux qui l'adulent, tout le monde reconnaît que c'est une œuvre extrêmement considérable. Il a finalement participer à la concrétisation de l'influence de l'École des annales au Québec. C'est très, très clair. Mm-hmm. Hein? Son adhésion aux façons de faire, il les a diffusées, il a dirigé des étudiants, et ses recherches étaient l'exemple même de tout ça. C'est la revue Histoire sociale, Social History, que j'ai mentionné tantôt, va aussi dans ce sens-là. Donc, ça, c'est extrêmement important, parce que c'est une grosse génération d'historiens là, formés dans les universités qui va être à l'enseigne de l'École des annales à ce moment-là. Et Ouellet a participé à ça. Il a aussi sa façon de travailler le document, très, très près des documents. Ça, c'est très important. Il faut quand même le dire. Là. Il n'a jamais hésité à se lancer dans des recherches, dans des fonds d'archives pas toujours, attirants, là, où il fallait avoir beaucoup de il y avait peu d'instruments de recherche. Il a été très, très, très fort là-dedans et très, très assidu. Surtout, je dirais, moi, étant un historien du rural, je dirais que c'est peut-être justement une histoire rurale du Québec qui va être le plus marquant. Encore une fois, qu'on soit pour ou contre, là. Hein? Toute sa position, justement, sur sur les structures, hein, qui ne changeraient pas après la conquête, tout ça va être regardé, analysé, tout ça. La place de la bourgeoisie, y avait-il une bourgeoisie ou non? Tout ça va entraîner énormément de choses. Les seigneurs, hein, sur le Papineau était seigneur d'ailleurs. Donc, en agriculture, hein, sa position sur la crise agricole de 1802, qui évidemment ne s'avère pas, mais tout ça va générer tellement de recherches, de débats, que maintenant, on doit dire, on en sait beaucoup plus sur cette période-là et sur ces thèmes-là, parce que Ouellet en a parlé, a mis ça à l'avant-scène. Et bien sûr, autour des rébellions, est-ce que c'était une rébellion, un mouvement paysan ou pas. Ben, maintenant, avec les travaux d'Alain Gris, on sait bien que c'est pas vraiment ça. Mais, encore une fois, c'est Ouellet qui a montré le chemin, finalement. Et donc, beaucoup de débats suscités par ses recherches. Ça a été autant de stimulateurs pour la recherche qu'encore une fois, qu'on soit contre ou qu'on soit pour. Je vais parler tantôt de Gilles Paquet, de Jean-Pierre Wallot, mais je pourrais aussi parler de Serge Courville. Serge Courville, son œuvre repose sur la vérification et la contestation de plusieurs de musée de recherche de Ouellette. Même chose pour Alan Greer. Et on pourra en nommer plein d'autres là, au détour. Donc, j'ai dit tantôt au départ, là, une œuvre marquante et remarquée. Et ces livres-là, on va encore les consulter là, dans les années à venir, c'est certain.
Marquante et remarquée à titre... en fait, c'est très, très à mot juste. Alors, c'est déjà tout le temps qu'on avait pour ce soir. Le temps passe vite, en bonne compagnie. Merci beaucoup à notre invité, M. Alain Laberge. Merci beaucoup.
Ah, ça m'a fait plaisir. C'est toujours agréable de venir vous discuter avec vous.
Oui, c'était vraiment plaisant de vous recevoir à l'émission. C'était particulièrement intéressant de découvrir l'historien Fernand Ouellette. Et vous, chers auditeurs et auditrices, si vous souhaitez partager ou réécouter l'émission de ce soir, elle va être disponible en balado-diffusion dans quelques minutes à 19h30 sur le site de Chiz. Pour terminer, quittons-nous sur une dernière pièce musicale, puisque les derniers écrits de Ouellette datent de 2005 et explorent la contribution des Franco-Ontariens à l'histoire du Canada. Écoutons une chanson de Damien Robitaille, un musicien franco-ontarien qui a été le premier francophone hors Québec à recevoir le prix au concours Les Francouvertes en 2005. Voici d'ailleurs la capture audio de sa performance aux Francouvertes où il a interprété « Je n'ai pas de préférence ». Sur ce, c'était Émy Bois et Marc-Antoine Belzile à l'animation et à la console. Merci de votre écoute et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire.
Bonsoir, je m'appelle Damien Robitaille et si j'avais le choix, je ne ferai aucun choix. Lorsqu'on sort au restaurant, j'ai de la difficulté à choisir dans le menu ce que je veux manger. Steak, poulet, sandwich, salade, les spéciaux de la soirée. Mais moi je pense avec ma langue et c'est toi que je veux goûter. Je n'ai pas de préférence lorsqu'ensemble on sort manger. Je n'ai pas de préférence, mais c'est toi ma préférée. J'ai le goût de sortir danser.
La Ville de Québec révèle des talents musicaux qui font maintenant la signature de la scène locale partout ailleurs. Quoi de plus logique que de dédier une émission complète à la découverte de ces artistes d'ici? Écoute locale, la playlist, c'est une émission d'une heure entièrement consacrée aux sorties musicales de la vieille capitale. Tous les lundis, 14h, sur les ondes de Chiz 94.3. C'est toujours mieux d'écouter local.
Hey Pat, qu'est-ce que Jean Leloup, Jane Austen et Salvador Dali ont en commun?
Des cheveux?
Ben, j'allais plutôt dire qu'ils peuvent toutes nous apprendre de grandes et de petites choses sur la vie grâce à leur rapport créatif et intellectuel dans leurs disciplines respectives.
Donc c'est pour ça qu'on parle d'eux à La Planète des Sages, l'émission qui, chaque semaine, s'intéresse à la pensée d'une figure populaire afin d'en retirer un peu de sagesse.
Rendez-vous les jeudis 11h sur les ondes de Chiz 94.3.
Fait que les cheveux, c'était pas bon?
Non, c'était...
The following program is disturbing.
Crash Crowd.
Mardi 20h. Chiz 94.3.
Découte!
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés.
Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 13h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Je brise.
Vous écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie j'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Et si vous voulez être sûr de rien manquer des nouvelles d'art et de culture cet automne, j'ai monté une superbe équipe de chroniqueuses et de chroniqueurs pour me parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie j'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants.
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Découvrez Run Up River, le tout nouvel album de Renaud McCarthy, incluant l'extrait For a Moment. Ne manquez pas son spectacle le 26 novembre au Grand Théâtre de Québec. L'album est disponible sur toutes les plateformes d'écoute dès maintenant